Activité physique, nutrition, entraînement, santé mentale, expérience de vie. Voici le balado En action. Une production du groupe Défi.
Salut tout le monde, santé. Je m'appelle Hugo Clermont. J'accompagne un invité pendant ce balado d'une trentaine de minutes qui s'appelle En action. On fait un peu les choses à l'envers parce que cette portion-là, c'est-à-dire l'introduction, je l'enregistre après avoir rencontré et interviewé mon invité. Et dans le fond, il faut que je trouve une façon de vous résumer ça puis vous inciter à poursuivre l'écoute. D'abord, on discute de son profil, son parcours, ses raisons de l'amener à vivre, disons, en orbite autour du mot « santé ». Aujourd'hui, je reçois un boxeur, un athlète, un entrepreneur, un artiste, un gars sensible mais impulsif, un gars pour qui j'ai un grand, grand respect. C'est difficile à expliquer, mais cette rencontre-là m'a inspiré énormément. Il y a des chimies qu'on n'arrive pas à expliquer avec des mots. Je souhaite simplement que ça vous fasse le bien que moi ça m'a fait. Je reçois aujourd'hui le fondateur de Bouddha Station, Christian Genet.
Dans 3, 2, 1, action!
Christian Genet, santé.
Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Merci d'être là. Je dis merci d'être là, mais moi, c'est moi qui est chez toi. On est où en ce moment, Christian?
On est dans nos bureaux de coworking qu'on a intégrés il y a environ un an et qu'on s'apprête à quitter là, bientôt parce que l'entreprise a vraiment grandi. Fait qu'on est dans les derniers milles ici. Là.
Christian, j'ai envie de débuter l'entrevue avec toi, l'entretien avec toi. Est-ce qu'on peut se tutoyer?
Ben oui, absolument.
Je demande la permission. On se connaît pas. On s'est vu pour la première fois.
Il y a 20 minutes, 25 minutes.
Moi, je dirais 15. Là, ouais. J'ai réussi à me perdre dans un endroit si petit, d'ailleurs. Je sais que ma mère qui écoute rit en ce moment parce que c'est pas la première fois que son fils se perd dans un endroit si petit. Je suis têtu, je le sais, mais je suis content d'être là. Puis j'ai lu assez sur ce que tu fais depuis plusieurs années, mais pas tant que ça. Tu es quand même jeune, puis ce que tu as construit, ça date pas des années 70, comme dirait mon père. Je te trouve hot. Je trouve ça hot ce que tu fais, puis ton dernier bébé. Je suis impressionné par le produit, je suis impressionné aussi par la dynamique de tout ça. Je vais lire un extrait d'un texte que j'ai trouvé sur ton site web. La façon dont les gens mangent dans l'entreprise est brisée. C'est exactement pourquoi j'ai créé Bouddha Station. En janvier 2017, j'en avais marre d'avaler un sandwich dans l'auto en route vers le bureau après mon entraînement du midi. Mm-hmm. Pour moi, le fast-food n'était pas une option. Même leur choix, moins pire. Ça, on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement. Je veux qu'on en reparle. Fais-moi la pensée du fast-food puis de ce que tu mangeais entre le gym puis le bureau. Là, je termine la lecture. Je me suis dit que j'allais trouver une solution à cette problématique. Alors, ma question, Christian, c'est quoi la solution?
Ben, la solution, c'est d'être organisé, d'avoir accès à un repas qui est simple, qui est rapide puis qui ne coûte pas trop cher. Selon ces trois conditions-là, on réussit à changer les habitudes des gens. Dès que tu as à mettre ton manteau, dès que tu as à mettre un effort de préparer un lunch ou dès que tu as à sortir, aller chasser quelque chose sur la rue, ça se gâte.
Oui. Ouais. Surtout à l'heure où on est en ce moment. Je veux dire, les jeunes familles maintenant, puis on parle de plusieurs familles reconstituées. Là. Une semaine tes enfants, une semaine tes pas. Moi, je suis encore. Je suis spécial. Je suis encore avec la mère de mes enfants. Mais tu arrives dans un moment tellement important, puis tes réflexions sont tellement pertinentes. Là. Parce que oui, on mange mal, puis notre défaite, c'est de dire notre excuse, c'est on n'a pas le temps.
Oui, notre excuse, c'est tout le temps, on est pressé. Puis malheureusement, c'est mal fait aussi en ce moment. Bien, souvent, la bouffe santé, c'est synonyme de compliqué ou de cher. Mm-hmm. Rien de pire que quand t'es pressé, c'est compliqué, ou que à chaque fois que tu veux manger un repas le midi, il faut que tu donnes ta maison en hypothèque, c'est un peu plate.
Mm-hmm. Moi, je veux que tu m'expliques le plus simplement possible. Moi, je le sais, là, mais je veux que tu l'expliques aux gens. C'est qu'est-ce que Bouddha Station offre comme service et produit?
Alors, on fournit un petit frigo aux entreprises que l'on remplit chaque semaine de lunch santé et éco.
OK.
Les employés peuvent ouvrir la porte, choisir un repas, le payer via notre application et ensuite de ça, le déguster.
OK. Fait que concrètement, là, moi, je travaille dans une entreprise X qui fait affaire avec vous le midi, à midi une. Pas besoin de manteau, pas besoin de bottes, pas besoin de parapluie dans, par rapport à certains jours, même le mois de mars. Puis j'ouvre le frigidaire, je me prends un lunch. J'imagine qu'il y a une offre, tu sais. On mange pas toute la même chose, je me trompe pas.
Ouais.
En fait, je suis certain, parce que j'ai lu sur votre truc, j'ai lu votre menu, l'eau à la bouche. Et là, faut que je paye avec mon téléphone avant de manger?
Ben, en fait, si je reviens là, à la base, là, c'est que moi, j'ai pensé à ça un peu comme un service. Dans tous les bureaux en 2020, il y a une machine à café.
Mm-hmm.
Alors, ça t'oblige pas à prendre du café au bureau. Ça se peut que certains matins, t'arrives avec ton café Starbucks ou Tim Hortons. Par contre, ça t'arrive de rencontrer des gens, d'être au bureau l'après-midi, d'avoir envie d'un café. Et là, à ce moment-là, tu te déplaces dans la cuisine du bureau et tu te fais un café.
Oui.
Ça va t'arriver d'apporter un lunch pareil puis d'aller rejoindre des amis au restaurant le midi.
Oui.
Pareil.
Oui.
Mais il y a certains midis où ça fit, où tu veux sauver du temps, où tu ne veux pas sortir.
Mm-hmm.
Nous, on a pensé à ces midis-là. Les entreprises qui font affaire avec nous ont ce service-là. Les employés n'ont qu'à ouvrir le frigo, choisir un lunch. Ils n'ont pas à le précommander. Ils n'ont pas à gérer les inventaires. Ensuite de ça, ils prennent leur téléphone pour payer immédiatement. Et ensuite, ils le dégustent.
Okay.
Pourquoi le payer immédiatement?
Ouais.
Parce que derrière tout ça, il y a comme une intelligence au niveau des inventaires, des stocks. Ça nous permet de suivre en temps réel si le frigo se vide à l'entreprise, par exemple, à Litia, à Québec. Ça nous permet de le remplir, même si la fin de la semaine n'est pas arrivée. En milieu de semaine, on peut le remplir.
Oui, puis le fait de travailler avec une application, ça simplifie la chose, puis c'est instantané.
Exact.
Vous avez de façon instantanée les quantités commandées, les quantités restantes. Puis
on est en mesure de voir aussi qu'est-ce que les gens aiment le plus dans nos repas, parce que c'est toujours ce qui sort en premier.
OK. Mm. 3 ans, c'est un bébé, là, cette entreprise-là.
Oui, en fait, de l'idée qui est partie il y a 3 ans, à finalement un petit comptoir que j'ai ouvert en janvier 2018. On peut dire que ça fait 2 ans, là. C'est encore un bébé. Mais un bébé qui dernièrement a pris une belle vitesse. On est en croissance, là, je te dirais, d'environ 30 à 40 % par mois. C'est un moment où c'est très rassurant pour un entrepreneur comme moi. C'est plutôt inconfortable pour mon équipe.
Parce que
la croissance, ça amène plusieurs défis. Il faut grandir l'équipe, il faut former cette équipe-là, il faut les coller à nos valeurs d'entreprise. Puis, nos besoins aussi, autant dans tous les domaines, tu sais, au marketing, en vente, aux opérations, à l'expédition, ils grandissent, donc il faut s'organiser. T'sais.
Je comprends. Mm. C'est sûr que, j'allais dire, tu peux pas dire non, tu peux dire non, mais c'est délicat à ce moment-ci. Bien, on dit souvent que le succès fait mal.
Mm.
Je comprends un peu ton questionnement. Par rapport à l'objectif, on a parlé d'une vision d'entreprise qui était attachée à 250 000 personnes par mois d'ici 2024. Es-tu proche de ça?
Non, on a 2 ans de fait. Je ne suis pas proche de ça.
OK.
Par contre, je peux te dire que déjà, on a dépassé la barre des 10 000.
OK.
Ce qui est pour nous énorme.
Mm-hmm.
Parce que tu sais...
Dans deux villes?
Non, on est partout au Québec en ce moment.
OK.
Ouais. Et puis...
Mais les lunchs sont préparés où?
Sont montés. On a plusieurs sous-traitants qui travaillent pour nous parce que nous, on ne fait pas la bouffe. Alors nous, on a développé le frigo, l'intelligence de l'application. Ensuite de ça, on prend le contact avec les clients. C'est nous autres qui fait le suivi. Mais au niveau des opérations, on a des professionnels dans tous les endroits du Québec qui développent les produits pour nous. C'est acheminé chez nous à l'aire de distribution, puis là, on fait l'emballage. Comme un peu, tu sais, Simons ne font pas des jeans puis des bobettes. Mais si tu commandes chez Simons, ils vont joindre ta paire de jeans avec tes bas puis tes sous-vêtements, puis ils vont chipper ça chez vous. On est comme ça un peu. On sélectionne les meilleurs sous-traitants. Et puis, on expédie partout au Québec.
Les sous-traitants travaillent de la même façon, j'imagine. Moi, si je travaille, parce que je pense que Promutuel, c'est un de vos bons clients.
C'est un très bon client.
Si je transfère en Outaouais, mon menu va être le même. Là. Je veux dire, ça va coûter la même chose.
Absolument.
OK, parfait.
Ouais. C'est l'avantage d'avoir un joueur comme Amazon dans le portrait d'affaires en 2020, c'est que au moins, ça amène des solutions d'expédition qui sont extraordinaires, ce qu'on n'avait pas avant.
Je peux pas t'obstiner là-dessus.
Mm.
Parle-moi de l'éco-responsabilité de l'entreprise. D'ailleurs, je vous donne 5 étoiles là-dessus. Je sais pas quoi dire d'autre que bravo.
Ben merci. Écoute, pour nous, les co-responsabilités, ça se colle à faire attention aux traces que l'entreprise peut laisser sur la planète, sur aussi nos relations humaines avec les employés, comme traces qu'ils vont laisser pour plus tard dans leur prochain job et tout, mais précisément sur nos actes verts que j'appelle, chez nous, on utilise des boîtes d'expédition qu'on reprend. On utilise des ice packs pour garder au froid, on les reprend. On utilise des contenants aussi qui sont réutilisables. Aux opérations, on les nettoie, on les restérilise, on les réutilise.
C'est vraiment l'étape après le recyclage. Là.
Ben pour nous, c'est mieux que le recyclage et les compostables.
Ben oui, mais pas juste pour vous, c'est l'avenir. Ce que vous faites là, c'est l'étape après le recyclage. En fait, il y a des gens qui recyclent même pas. Là.
Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis c'est pas quelque chose qui est payant ou pour sauver des coûts, au contraire. Mais
okay. Ça vous coûte plus cher de faire ça?
Bien sûr, ça coûte bien moins
même
cher.
Même à long terme, Christian?
Définitivement.
OK.
Parce que l'opération de ramener ça, tu sais, quand tu expédies quelque chose, tu le fais à sens unique. Alors on doit le faire à double sens, tu comprends?
Oui.
Ramener quelque chose.
Oui.
Mais ensuite de ça, t'sais, l'opération de laver ça, stériliser ça, puis faire le contrôle de qualité, parce qu'il y en a qui cassent des fois et tout ça, mais ça aussi, c'est beaucoup d'énergie, puis c'est beaucoup de temps de manutention. Ça revient beaucoup plus cher que de mettre des choses au recyclage.
Ouais.
Et en ce moment, au Québec...
Ça serait déjà bien, en plus, le recyclable, mais là, c'est encore mieux.
Oui, mais je pense que si on veut créer une entreprise qui va être pérenne, puis on va vraiment tracer la voie sur une façon de faire du commerce différente, ben il faut croire à ses aspirations, puis foncer.
Moi, je reviens au concret, là. Moi, je travaille pour Promusuel, je suis transféré en Outaouais. J'ouvre la frigidaire, votre frigidaire.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est vous qui décorez les frigidaires?
On a un frigo personnalisé qu'on fournit aux entreprises.
Ouais, ouais.
Ceux qui en ont déjà un puis qui veulent le garder, ben dans ce cas-là, on prend une tablette du frigo, on la décore, on la brand. Oui,
ils sont décorés, là.
Exact.
Mais ça, c'est il n'y en a pas un pareil de ce que j'ai vu dans vos images?
Non, ils sont tous pareils.
Ah oui, OK.
C'est vraiment un petit frigo vitré qu'on
c'est beau, hein?
On met un wrapping dessus, là, vraiment joli, dynamique. Là.
OK. Fait que moi, j'ai un pot de vitre.
Mm.
Mon lunch est dedans.
Ah non, il est en thermoplastique.
Excuse-moi.
Ouais.
Mon lunch est dedans.
Ouais.
Je mange. Ensuite, je fais quoi avec le pot? Je le mets sur le comptoir.
T'enlèves l'étiquette.
Il y a quelqu'un de chez vous qui vient chercher la vaisselle sale?
En fait, t'enlèves l'étiquette, tu rinces le contenant, puis tu le mets dans une station qu'on monte carrément.
Okay.
Alors, c'est une genre de grosse boîte de réutilisation.
Ouais.
Comme à l'époque, tu sais, il y avait des grosses boîtes pour reprendre les canettes dans certains événements, comme le défi entreprise. Ben, nous, il y a une boîte. Puis là, les employés les rentrent un par-dessus l'autre, un dans l'autre, les contenants. Puis nous, une fois par mois, on ramasse tout ça.
OK. OK, on rentre un peu dans le personnel parce que t'es intriguant. Trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Puis en plus, t'es maniaque de boxe. Un TDAH, ça nuit ou ça aide comme entrepreneur, Christian?
Dans mon cas, c'est quelque chose qui me démarque. Je pense que c'est une grande qualité, c'est un point positif à partir du moment où tu sais comment l'exploiter. Puis tu es en mesure d'avoir des mécanismes de défense qui vont bloquer certains côtés très négatifs du TDAH.
Très négatif comme quoi?
Ben, tu sais, je te mentirais pas que dans ma jeune carrière d'entrepreneur, j'ai manqué d'humilité. Dans ma jeune carrière d'entrepreneur, j'étais un gars qui était aussi très, très impulsif, qui pouvait se fâcher, qui manquait aussi qui pouvait devenir obsessif sur certaines choses, qui manquait de focus. Alors, ça, c'est toutes des choses que tu apprends à créer. Une espèce d'équilibre de vie qui va te mettre en contrôle de ça. Bien sûr, il y a la médication pour moi, il y a le sport sur une forme quotidienne. Il y a ensuite de ça un 10 minutes que je prends le matin, la première chose en me levant, que j'appelle mon 10 mindful minutes. Il y a la façon dont je travaille à y aller.
Qu'est-ce que tu fais dans ces 10 minutes-là?
Tous les matins, en me réveillant, c'est mon 10 minutes au calme où je me ferme les yeux, je m'assois au même endroit et je vois ce qu'il y a devant moi pour la journée. Comment je sens mon corps?
Dans ta tête?
Ouais. Comment je sens mon corps ce matin-là? Mm-hmm. Comment je vois ma journée? Qu'est-ce que j'ai à réaliser? Et qu'est-ce qui sera important pour moi de vivre au niveau des émotions? Je vais être confronté à quoi au niveau des émotions? J'ai une rencontre avec telle personne, je dois annoncer telle nouvelle, mm-hmm. je vais aller faire du sport sur l'heure du dîner, je vais aller chercher ma fille à l'école. This and that, j'analyse ça, puis je me dis, dans tout ça, j'ai envie de vivre telle, telle, telle émotion. Puis il y a peut-être tel chaos que je vais faire face, auquel mm-hmm. je vais faire face. De quelle façon, moi, je vais aborder ça?
Tu vas le prévoir, le chaos? Tu sais, on parle de parfois de visualisation, là. Les problèmes, est-ce que tu les visualises ou au contraire, tu visualises le scénario complètement à l'opposé de l'anxiété? Comprends-tu ma question?
Oui, je comprends bien ta question. En fait,
tu parles de chaos, c'est gros, là.
La première chose, c'est un réflexe de boxe, OK?
Oui,
c'est d'essayer d'analyser ce qu'il y a devant moi, de quelle façon je vais réagir, de quelle façon, si ça ne se déroule pas comme je l'ai anticipé, je vais être capable de retourner dans le coin du ring puis respirer. Okay? Mais quand on conduit une voiture, c'est pareil. Il faut essayer d'entrevoir s'il y a des obstacles sur le chemin. Il faut être capable de... Et en vélo de montagne, c'est pareil. Si tu regardes ta roue, ça marche pas. Le plus loin que tu regardes, le mieux c'est. Le plus tu étais en équilibre, puis le plus ça avance. Mm-hmm. Mais dans ma journée, c'est la même chose. J'essaie pas de voir le négatif, de tout prévoir, mais j'essaie d'entrevoir s'il peut y avoir des obstacles et de quelle façon je vais rester en équilibre avec moi-même. De quelle façon, moi, je vais pas revirer dans des comportements que j'ai déjà eus il y a 15 ans, par exemple. De quelle façon je vais rester en position de self-awareness, je vais me contenir, je vais rester en paix avec moi-même. C'est plus de cette façon-là que je le vois.
Ça, c'est tous les matins pendant 10 minutes?
Ouais. Okay. C'est vraiment un rituel que j'ai tous les matins.
Parle-moi de ton passé d'entrepreneur.
Écoute, j'ai étudié en droit.
OK. T'as quel âge, Christian?
Je vais avoir 45 ans dans 18 jours. Je viens d'un milieu de travail spécial. J'ai travaillé dans les clubs de danseuses, moi, pendant que j'étais aux études à l'université. Pendant tout près de 4 ans, j'ai été gérant dans un club de danseuses, dans des moments entre 96 et 99 où c'était la guerre des motards au Québec, si tu te souviens.
Oui.
Alors, j'ai vécu ça de près. J'ai vécu mon meilleur ami qui était dans les Hells Angels, qui s'est fait descendre. Je me suis sauvé pendant 6 mois. Et à travers tout ça, moi, je venais d'un milieu très, très religieux dans ma famille et tout. J'étais beaucoup en opposition avec mon père. Et c'était une façon pour moi de faire des sous faciles, rapides et tout ça. Durant tout ça, ces années-là, j'ai tout le temps été près du sport. Je prenais zéro drogue. Je prenais pas d'alcool. J'étais le candidat idéal pour gérer un milieu où il y avait à peu près tous les vices. Quand je suis sorti de là, la journée où mon ange gardien, disons, s'est fait descendre, okay. Je me suis sauvé pendant 6 mois.
T'as eu peur?
Ouais, j'ai eu peur. Pas à cause de mes comportements, mais à cause de ce que je savais. J'en savais beaucoup.
Raconte-le pas si ça te dérange.
Ça m'a permis d'aller terminer mes 4 derniers cours que j'avais à l'Université Laval à UBC. Au retour, j'étais dû pour faire un stage dans un bureau d'avocat. Écoute, j'ai toffé 2 jours.
C'est vrai?
Ouais. Et de là, je me suis dit...
Est-ce que ces gens-là connaissaient ton passé?
Non. Okay. À l'époque, c'est quelque chose que je cachais. De là... En revenant chez moi, je me suis dit, j'ai tellement besoin de liberté, j'aurai pas de plaisir dans la vie à être un avocat, c'est pas une vie qui est faite pour moi, j'ai pas de plaisir, je vais essayer de me lancer en affaires. J'avais pas une scène, mais j'ai toujours été un artiste, moi. Mm-hmm. Je savais pas faire des sushis, mais j'en avais tellement mangé à Vancouver que je me suis dit, il y en a pas au Québec, mais il semble que c'est impossible de se faire livrer autre chose que du poulet puis la pizza. Je vais me partir ça. Alors, j'ai parti...
Là, on est à quelque part dans les années 2000, Christian?
Ouais, là, on est le 31 août 2000. J'ai parti une petite entreprise qui s'appelle Sushi Taxi, qui n'a pas pignon sur rue.
Ben oui.
Et puis...
Ça marchait pas pire, ça?
Tranquillement, pas vite, c'est parti d'un petit projet à une entreprise, à une moyenne entreprise. Puis j'ai vendu ça en 2016, à la fin de l'été 2016.
OK. T'as vendu ça? Écoute, pourquoi?
J'étais plus
ça, on s'entend, ça allait bien, là.
Ça allait très bien. mais j'étais plus là.
Cérébralement?
J'avais fait un accident d'hélicoptère en 2016 qui m'a vraiment shaké, qui a failli me coûter la vie.
Hey.
Je venais d'avoir 40 ans il n'y a pas très longtemps aussi. J'avais passé ma vie là, t'sais, en analyse, puis j'allais au bureau le matin, j'avais le goût de vomir, j'avais plus de fun, j'avais l'impression qu'il y avait juste une personne qui poussait, c'était moi. Que...
Est-ce qu'il y a une blonde, une conjointe, des enfants dans ce décor-là à cette époque-là?
Il y a une conjointe à cette époque-là. Tu sais, moi, j'ai eu tous les défauts dans la vie. Là. Je travaillais dans un milieu que je t'ai raconté tout à l'heure, donc j'étais un courailleux de première. Là.
OK.
Dans tout ça, en 2000, j'ai été père de famille d'une mère avec qui je n'ai jamais été. Alors, la mère de ma fille, j'ai jamais été une journée ni même une minute. J'aime dire une chose, c'est que tous les jours, je remercie Amélie, la mère de ma fille, qui s'appelle Clara. Et c'est le plus beau succès que j'ai eu dans ma vie. T'sais,
Amélie, c'est la maman, puis Clara, c'est la fille.
Exact.
C'est vraiment... J'ai bien compris, là, tu la vois régulièrement encore.
C'est mon plus gros succès dans la vie, là, je te dirais. On n'a jamais été en cours, on n'a jamais été devant un juge ou en médiation. C'est toujours entendu une semaine sur deux. Quand ma fille a eu 14 ans, elle va vivre chez moi à temps plein.
Mm-hmm.
Puis en ce moment, ma vie vit chez moi une semaine sur deux. Puis va terminer son. Termine là, sa technique policière, va rentrer à Nicolette en septembre.
C'est vrai?
Oui.
Elle connaît tout ce que je viens d'entendre là.
Oui. C'est vrai. Je me suis mis à la table.
Fière de papa, puis.
On n'a pas tant parlé de mon passé. Elle le connaît de A à Z. Puis, tu sais, je me suis mis à la table par rapport à ça et tout ça. Mais. Les enfants, ça vit dans le quotidien, pas dans le passé, et c'est très correct. Mm-hmm. Elle analyse son père selon ses comportements quotidiens, et c'est très correct.
OK. Oh, là, toute une parenthèse. J'ai eu des frissons, moi, en passant.
Ça t'attendait pas à ça, hein?
Non, pas du tout.
Avant le podcast, il faut que je vous fasse une confidence. Là. je me suis fait demander s'il y a des endroits où je voulais pas aller ou s'il y a des trucs. Puis, de toute façon, je vais effacer ça après. Mais là, j'espère que ça t'effacera pas après.
Non, je peux pas. C'est on bon. On peut pas toucher à ça.
Parfait.
Je vais faire une image de boxe. Là. C'est un jab. Parlons de boxe. La boxe, par rapport à ce que tu es comme entrepreneur, il y a un parallèle à faire. Je ne suis pas fou, je le vois, je l'entends. Pourquoi la boxe?
Par accident, au départ, parce que je voulais me remettre en forme. Et puis, je suis tombé en amour avec ce sport-là à cause d'une chose simple. J'adore apprendre et à la boxe, encore après 15 ans que je pratique la boxe, j'apprends à tous les entraînements. Pour moi, ça, c'était formidable. Pour moi, c'était un jeu plutôt que d'aller au gym soulever de la fonte ou faire des trucs de même. Puis parce que j'avais tellement un sentiment de bien-être après une heure de boxe, c'est fou. J'avais réussi à mettre mon cerveau de fou à off pendant une heure. Alors, c'était un délice. Puis la boxe, ben, ça a changé ma vie parce que ça m'a montré à focusser. Ça m'a démontré l'humilité beaucoup que peut-être je manquais dans ma vie. Ça m'a montré aussi le fait d'être capable, la résilience. Que t'es pas un mauvais boxeur, des fois, de mettre un genou à terre parce que tu te protèges puis tu veux faire attention. Puis que ça fait pas de toi un perdant. Ça fait de toi quelqu'un qui est intelligent puis qui va être capable de rebondir de façon analytique en ne rentrant pas dans le jeu de l'autre.
C'est très, très typique d'un parcours d'entrepreneur.
Mais tout
ça, tu me parles d'humilité, tu me parles de genou à terre, tu me parles de résilience.
Exact. Puis, tu sais, même chose, le courage. T'sais, le courage à la boxe, là, c'est pas de démolir l'autre. C'est pas d'accepter un combat que tu es sûr que tu vas gagner haut la main. Le courage, c'est de rentrer dans un défi où tu n'as aucune idée de l'issue, mais tu vas donner le meilleur de toi-même. Puis ce qui va arriver, tu vas le faire d'une façon vulnérable, d'une façon humble, puis tu vas apprendre là-dedans. Pour moi, c'est tellement toutes des leçons humaines, mais aussi de leadership. Le leadership et l'entrepreneuriat, c'est tellement collé ensemble. Ça me fait tomber en amour avec ce sport-là.
Sur ton site, c'est écrit... en fait, c'est pas sur ton site, c'est sur un mur à l'intérieur de vos commerces. « Be a game changer, the world has enough followers ». Ça signifie quoi pour toi?
Et pour moi, c'est tellement important. Ça fait partie des trucs que j'ai voulu donner en héritage à ma fille. C'est d'être unique. De savoir ce qui te différencie dans la vie. De connaître c'est quoi ton « edge » et de l'amplifier. Plutôt que d'être un mouton qui va suivre le troupeau. Fait que, au niveau de la personnalité, au niveau des amis, au niveau de la business, c'est pareil au niveau de la business. Pas de différenciation, pas de business. Au niveau des employés, pas de différenciation de marque employeur. Très dur de recruter en 2020.
Tu es propriétaire du club de golf Empire? Ben, en fait, il n'y a pas réellement de propriétaire.
De boxe.
Qu'est-ce que j'ai dit?
De golf.
De golf?
Fais-moi pas jouer au golf tout de suite, s'il te plaît.
OK.
Mais écoute, oui, j'ai... quand j'ai racheté la faillite, j'ai tourné ça en OBNL. Alors, on a des projets vraiment philanthropiques avec ça. Le Centre Procession d'Intervention de Québec, puis le Centre Jeunesse de Québec.
Ouais, je suis content que tu en parles parce que c'est beaucoup plus que des gars qui se tapent d'en face. Là.
Oh oui, absolument.
Tu sais, je te parlais de Dan Bigra plus tôt aujourd'hui.
Ouais.
Je fais un parallèle avec ça. T'sais, les gars en ce moment, les petits gars, les ados, les pré-ados, ils ont une espèce de rage intérieure. Ils ont quelque chose, ils ont envie de communiquer. Des fois, c'est pas par des mots. Puis je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher dans cette façon de faire-là.
Écoute, tu sais, je t'ai raconté une époque plus sombre de ma vie. J'ai été mis en contact avec le sexe, la drogue, le rock'n'roll.
OK.
Et j'ai été une personne qui a été complètement KO de voir qu'il y avait de la prostitution juvénile à Québec. Pas au Québec, mais à Québec. Et vraiment comme une usine.
Ouais.
C'était pour moi naturel de vouloir aider.
Oui.
Puis avec la boxe, pour moi, c'était comme cohérent. On a monté un projet avec le Centre d'intervention prostitution de Québec. Et là, je dois dire une chose. Imagine, il y a environ entre 12 et 16 mineurs, entre 16 et 17 ans, qui viennent s'entraîner chez nous chaque année à titre gratuit. Okay?
C'est du monde de la rue, là.
Quand ils arrivent chez nous, ça fait un an qu'ils sont en démarche au Centre d'intervention prostitution de Québec. Mm-hmm. Ça les met à 15 ans.
Okay? Mm-hmm.
On en reçoit entre 12 et 16 par année. C'est quoi le pourcentage qui fait de la boxe parmi ceux qui vont au Centre d'intervention prostitution de Québec? Peut-être 30%.
Okay.
C'est quoi le pourcentage, tu penses, de jeunes de la rue qui se ramassent au Centre d'intervention prostitution de Québec? Pas beaucoup. 15-20%. Il y en a combien dans la rue? Il y en a en tabarnouche.
Tu comprends?
La boxe, pour moi, ça a été tellement naturel de monter avec eux un programme qui, dans le fond... fait en sorte que les jeunes adolescents font du sport.
Oui.
Ils se rendent compte rapidement que quand ils font quelque chose puis ils mettent une petite récurrence, ils deviennent bonnes.
C'est un entraînement rigoureux, tu sais. Je veux dire, on parle de sécrétion d'endorphines, ce qu'on parle de...
Définitivement.
Évidemment, je suppose qu'il y a des frigidaires, des frigos, Bouddha Station sur place.
Il y en a un, effectivement. Écoute, on a monté une salle avec 30 sacs de boxe dans le noir. Avec un coach qui est en avant avec un micro. Fait qu'il n'y a pas d'espèce de mesure avec les autres, de comparatif, de telle personne, ça fait 10 ans, moi, ça fait 5 ans. C'est selon l'intensité que tu mets sur le sac. Mais les jeunes filles, dans tout ça, là, ils réapprennent à avoir confiance en eux. Ils réapprennent aussi à sortir les émotions. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions, des émotions qui sont trop prises à l'intérieur de toi. Il faut que tu apprennes à les sortir, puis ensuite de ça, à être capable de les débriefer, les analyser, puis à avancer dans tout ça. Et au bout du compte, ça leur donne confiance qu'ils peuvent réussir d'autres choses dans leur vie, puis qu'ils sont des bonnes personnes. Alors, c'est un projet qui met les bases, tu sais, puis qui, pour que les adolescentes ils se rendent ailleurs.
OK. On revient au lunch. À travers tout ça, toi, tu as décidé de faire des lunchs. OK. Moi, là, tantôt, je vais partir. Je peux-tu aller à quelque part puis acheter un repas? De Bouddha Station où il n'y a plus de...
Malheureusement, non.
Je ne sais pas, mon restaurant, c'est pas dans les plans.
Non, on est vraiment une entreprise techno. Puis à la même chose, tu sais, je pourrais comparer. Si tu as une machine à Coke au bureau,
ouais.
Tu ne vas pas aller chez Coke, l'entrepôt, tout ça, ils vont te livrer.
Je comprends.
Nous, c'est un service que l'employeur offre à ses employés ou que les RH rentrent ou que les employés disent... Peux-tu contacter notre employeur pour rentrer ça? Ça serait super.
Mm-hmm.
Qui nécessite presque pas d'investissement. Puis, au bout du compte, à partir du moment où il y a un frigo dans une entreprise, nous autres, on le remplit chaque semaine. C'est aussi simple que ça.
Fait que moi, je suis travailleur autonome. C'est même si j'ai pas beaucoup d'employés, je pourrais faire affaire avec vous puis trouver une façon Ça dure une semaine, je pense, les repas?
Les repas se conservent une semaine, mais nous autres, il y a un minimum de 10. Il n'y a pas de surgelé, c'est que du frais. On a des salades en ce moment à agiter. Donc, il faut les mélanger.
Ça ressemble à quoi, vos menus?
C'est ça. On a des salades à agiter. Ensuite de ça, on a des ramen qui est vraiment une base de ramen qu'on a développé avec le Centre de recherche en alimentation.
C'est vrai?
Qui sont aux épinards, avec des poudres qui sont déshydratées de légumes et non bourrées de sel. On rajoute des légumes et des protéines bio par-dessus ça.
Okay.
Fait que quand tu sors un ramen, tu as juste à ébouillanter, mettre de l'eau bouillante, tu refermes ça, tu attends 5 minutes. Puis tu as un repas comme hallucinant, chaud, parfumé. Puis sinon, on a des repas à réchauffer au micro-ondes. Toujours dans le créneau santé, toujours dans le frais, il y a zéro congelé chez nous.
OK.
C'est que ça permet de manger au bureau pour 10 à 12 $ tout compris.
Par jour.
Ouais. Puis... Fait que pense-y, tu sais, tu vas au Tim Hortons, c'est dur que ça coûte en bas de ça.
Non, non, mais tu vas n'importe où, Christian, n'importe où, même à l'épicerie. Question super niaiseuse, OK, mais j'ai pas le choix de la poser parce que j'entends les gens qui écoutent, tu la poses. Est-ce que c'est bon? Parce que manger des épinards puis de la poudre.
Tu sais, une de mes 4 valeurs, soit celle que j'ai collée à mon entreprise, une parmi celles-là, c'est excitant.
Pour moi, j'ai là, lu ce mot-là partout.
Le site. Goût doit être excitant, la façon dont on communique avec les clients, la facture doit être excitante. Mais le goût en premier, ça doit être excitant. Il n'y a rien qui rentre sur le menu chez nous si le goût n'est pas excitant.
Ton côté artistique. De toute façon, si les gens n'aiment pas, je suppose qu'ils ne recommandent pas. J'ai lu un paquet de commentaires. Puis c'est pas, on ne veut pas que ça sonne comme une infopub, cette émission-là. Moi, je me pose vraiment ces questions-là. Puis, je veux dire, c'était... Oui, tu arrives dans un moment où il y a une tendance... c'est trendy, là, parler santé. C'est trendy de parler éco-responsabilité. Mais au-delà de ça, c'est tout à ton honneur de le faire.
Mais sais-tu quoi? Je ne suis pas d'accord avec toi.
Okay.
C'est trendy. Je pense que là, les entreprises se sont rendues compte qu'ils doivent prendre soin des employés puis ils cherchent des façons de le faire.
Une façon de les attirer de toutes les manières.
Le mot santé est un mot qui nous a nui beaucoup en affaires.
Je
t'explique. Quand on colle le mot santé à bouffe, là,
ouais.
70% des Québécois, ils pensent tout de suite tofu, ils pensent tout de suite luzerne, ils pensent tout de suite chair ou ils pensent tout de suite quelque chose qui est compliqué.
70%?
Ouais. Et
compliqué, attends un peu là.
Compliqué
cher, vert, luzerne.
Luzerne, tofu.
C'est vrai que c'est tout négatif. Ben, tofu, à part tofu, je te dirais que...
Sais-tu quoi, le tofu, là, ça, les ventes commencent à monter, ça commence à se démocratiser, mais monsieur, madame, tout le monde, c'est pas vrai qu'ils achètent du tofu à l'épicerie.
T'as raison, Christian. Ouais. J'ai trop d'amis green.
Et puis, il y a un autre pourcentage de gens qui prennent vraiment soin de leur santé. Et eux ne veulent pas se faire dire santé, ils veulent que ce soit eux, par choix, qui le décident ce qui est bon ou mauvais pour eux.
OK, parce qu'eux, ils ont un peu comme les menus santé, puis on les nommera pas, là, mais dans certains restaurateurs rapides, où on affiche à droite, dans le coin, menu santé, ces gens-là vont apporter tout de suite un jugement de valeur en disant que c'est de la vente non représentative.
C'est vrai que c'est pas santé, tu sais, parce que... Peut-être c'est moins gras.
C'est plus
peut-être
santé
qu'il y a moins de calories.
Que le menu de la gauche.
Mais il y a quand même toutes sortes d'additifs, toujours toutes sortes d'agents de conservation. C'est des affaires sous vide qui sont bourrées de sel. Peu importe, ce n'est pas santé. C'est moins gras, moins calorique peut-être, certes, mais ce n'est pas santé. Fait que le mot santé collé à la bouffe, pour nous autres, ça a été quelque chose qui nous a fait mal. Puis c'est vraiment pas trend.
C'est étrange.
Okay? Ben, c'est ça. Et puis, j'aime dire qu'en affaires, tu peux t'attaquer à un problème, mais pas à deux ni trois. Fait que, tu sais, la trail est trop dure à taper en ce moment pour que, en plus, je sois là pour changer la perception du mot santé collé à bouffe. Tu comprends?
Ouais, ouais, ouais. Ben oui. Oui, mais non. Tu comprends?
Ben.
Mais c'est vrai.
Alors, on parle d'aliments énergiques, on parle d'aliments sains, on parle de ce qui est bon pour ton corps puis ton esprit, mais on essaye de pas coller le mot santé.
Parce qu'au niveau marketing, c'est pas vendeur.
Exact.
Qu'un enfant va aimer ça autant que le parent?
Plus.
Oh, ça c'est intéressant.
Est-ce
qu'il y a des portions enfants?
Non, on a juste un format chez nous, mais c'est surprenant comment j'ai vécu ça, moi, à l'époque, chez Sushi Taxi. De voir les jeunes générations de passer qu'à ta fête, tu vas aller au McDo, au Burger King ou chez Poulet Frit Kentucky, si t'es plus vieux comme moi, à aller manger des sushis.
Ouais, on a le même âge.
Et tu sais quoi? Ben, la jeune génération, là, ils sont plus ouverts au tofu que toi pis moi.
Qui pas l'ont juste
fait
au tofu.
Par conviction, par valeur ou parce que t'as un mode de vie sain. Mais monsieur, madame, tout le monde, les jeunes, là, sont plus ouverts au tofu, à la bouffe santé, aux légumes ouais. que les gens des générations plus âgées, définitivement.
Ouais. Ben moi, j'ai 3 enfants, puis c'est ma fille. Puis ce que je te dis là, c'est 100% vrai, comme si je mentais de temps en temps. Ma fille de 16 ans a fait le souper hier à la maison. Puis mon fils et son ami étaient à la maison. Puis sais-tu qu'est-ce qu'elle nous a préparé? Du tartare de saumon. Avocat.
Je vis ça chez moi aussi.
Quand j'avais 16 ans, puis je faisais à souper là, à la maison, là, mm-hmm. on peut dire que c'était souvent des grilled cheese, des hot dogs.
Des croquettes de poulet.
Rien contre mes parents, mais on n'avait mm-hmm. Pas cette ouverture-là.
Mais c'est super. Ça fait juste démontrer que la société évolue, puis que le prendre soin de soi, c'est quelque chose qui s'enseigne, puis qui s'apprend.
Est-ce que ça est dans les plans? Parce que là, on parle d'enfants, on parle de préadolescents, puis... Je suis content qu'on ait la. Ben, je suis content d'entendre que ce que je pense est vrai, c'est-à-dire les jeunes sont plus ouverts que leurs parents, encore plus que leurs grands-parents. Puis non seulement sont plus ouverts, mais les jeunes, on parle de préadolescence, là, sont en train de modifier la façon de consommer de leurs parents et de leurs grands-parents. Mm-hmm. Parce que moi, ma fille a une influence sur moi, elle a une influence sur ses grands-parents aussi. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on entre dans les écoles bientôt? Est-ce que c'est possible de faire? Est-ce que c'est réaliste de s'approcher des écoles? Puis je vais aller plus loin que ça, des centres sportifs. Tu sais, les méga-centres multifonctionnels là, où il y a soccer, hockey, gym,
ben la piscine. Réponse est oui, check. C'est-à-dire...
Oui, check.
École Vision, déjà. Commission Excellent. Scolaire Marie-Victorin, déjà.
Excellent. C'est quoi, Québec, c'est une machine distributrice?
C'est pareil, un petit frigo.
Okay. Là, ben, bon. Vous allez changer ça au 10 jours?
Chaque semaine, on
Il n'y a pas de gaspillage? Qu'est-ce que vous faites avec ça quand ça dépasse la date de...
Le premier mois, nous, on reprend les stocks qui sont périmés. Une journée avant la péremption, on reprend les stocks et on les donne à des organismes de bienfaisance. Définitivement à Québec, l'Aubrivière.
Wow.
Le Grand Chemin à Montréal. Et pendant un mois, le premier mois, on prend sur notre dos ce qui vient périmé. Le temps qu'on ajuste les quantités, selon aussi les goûts de l'équipe.
Oui.
Après un mois,
oui,
l'employeur...
Menu,
après un mois, l'employeur se commet, puis lui, il prend en charge s'il y a des pertes.
Je comprends.
Fait que oui, on est dans certaines écoles, puis là, ben, je te fais une confidence. On a développé pour...
Ouais, tu sais qu'on enregistre.
Ah ouais. Mais je t'avais dit que j'avais pas de cachette à faire.
D'après moi, t'en as pas.
on a développé une boîte intelligente qui permet, justement, pour les écoles qui ont un plus gros volume, de contrôler l'accès au frigo. Puis de ne pas se faire shipper un lunch, ou bien que okay, la personne dit « j'ai pas mon téléphone, puis je vais payer après-midi ou demain », puis il l'oublie. Mm-hmm. Fait qu'on a développé une boîte intelligente. Tu vas sur l'application, tu choisis ton lunch, tu le payes. Tu as 30 secondes pour ouvrir le frigo, parce que ça envoie un signal pour ouvrir le frigo.
Oh, c'est très techno! Les centres sportifs?
Les centres sportifs, bien, le centre d'entraînement Bruno Langlois, entre autres, à Québec, qui est un centre d'entraînement pour cyclistes, est vraiment... Puis je te salue, Bruno, là, merci vraiment. Tu es un ambassadeur incroyable. Mm-hmm. Écoute, c'est fou le nombre de salades que ces gars-là mangent. D'après moi, ils mangent en roulant tellement qu'ils en mangent. Ça n'a pas de bon
sens. C'est lui qui te remercie, mais bon.
En tout cas, c'est une belle association. Il y en a d'autres aussi, le Steph to Sweat à Québec et tout. Fait que c'est comme une association qui est un peu naturelle. Hein? Quand tu fais du sport, tu veux mieux manger, mieux dormir et tout.
Ben oui.
Fait que c'est venu naturellement.
Oui, puis les parents ne sont pas équipés pour nourrir leurs petits sportifs. Moi, c'est de même, je le vois.
Il y a la notion aussi que plus tu fais du sport, moins tu as de temps. Fait que le temps qui te reste, là, bon, quand tu es petit cul puis tu fais du sport beaucoup, comme moi j'ai vécu dans ma jeunesse, le temps pour tes devoirs, il est limité. Il faut que ça opère.
Oui.
C'est soit que tu ne fais pas ou quand tu es fait, il faut que ça opère. Puis t'as pas le temps d'écouter la télé, puis ça te dérange pas. Mais maintenant, c'est pareil. Sauf qu'une des choses qui tombe rapidement, c'est les repas. C'est les repas parce que il y a tout plein de solutions dans le marché. On est une parmi celles-là. Définitivement, ceux qui prennent soin de leur santé, ben on est une solution incontournable maintenant. Là.
Est-ce que toi, t'en manges à tous les jours?
J'en mange pas tous les jours.
Okay.
Et pour une raison simple, j'essaie de garder une espèce de distance puis de pas me tanner aussi. Là.
Je comprends.
Tu sais, garder un œil critique sur le produit final, c'est important.
Mm-hmm. L'avenir de Bouddha Station, c'est quoi?
C'est définitivement, à partir de septembre, la conquête de l'Ontario.
OK.
Puis après ça, de l'Est des États-Unis. Puis... c'est de toucher 250 000 personnes par mois d'ici 8 ans maintenant. le compte à rebours est commencé.
Et l'avenir de Christian Genet?
L'avenir de Christian Genet, c'est d'essayer de sortir les gens de leur zone de confort.
Le bruit que vous entendez en passant, c'est Christian
qui joue avec taponneux,
mon Rubik.
Mon Dieu. C'est d'essayer de démontrer aux gens, de montrer aux gens du leadership, de démontrer aux gens aussi comment, quand tu sors de ta zone de confort, il y a quelque chose en dehors de ça qui nous fait tellement évoluer. De sentir que je fais une différence, moi, si petite soit-elle, dans la vie d'un jeune qui passe par le Centre d'intervention position de Québec, dans un employé qui est de passage ou qui est chez nous pour 20 ans, sentir que je fais une différence au niveau humain en amenant cette personne-là ailleurs. Pour moi, ça, c'est ce que je veux faire.
Je suis convaincu que tu en fais une différence, Christian. Est-ce que tu as déjà embauché quelqu'un de la rue chez Bouddha Station?
Non, mais au Centre Empire, oui.
Oui, ça doit. Hein?
Oui, oui. Écoute, c'est tellement une belle histoire. Tu dois être fier de ça. Ça a été notre première membre participante du projet, puis elle est rendue intervenante maintenant.
C'est hot.
Elle est retournée au cégep, elle a fini son cégep maintenant. C'est incroyable.
OK, dernière question. Je le fais avec tous les invités. Je veux que tu donnes un conseil aux gens qui nous écoutent, que ce soit en lien avec ce que tu veux. Pense-y, tu as le droit d'y penser. Tu prends le temps que tu veux pour y penser. Je veux qu'on termine ça avec un conseil de mon invité, Christian Genet.
Le conseil que j'ai donné est tellement simple, c'est prenez soin de vous. La base dans la vie, c'est prendre soin de soi. Si on veut être capable d'aimer des gens, aimer nos enfants, nos amis, notre blonde, il faut s'aimer soi-même. Si on veut être capable d'avoir confiance en nos amis, nos conjoints, nos enfants, il faut avoir confiance en soi. Puis, même chose, si on veut prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi en premier. C'est la base. Prenez soin de vous.
Ça se termine avec un frisson encore. Et c'est tellement vrai ce que tu dis. On dirait l'escalier de Paul Piché.
Ah ouais? Je suis un rocker, moi, là. Ça marche pas.
Aïe, aïe. Santé, Christian.
Ouais, chin. Désolé d'avoir gossé après ton... En plus, je capote. Hein.
Ah, je vais t'agacer. Tu n'as pas réussi à le finir.
Non, non, mais...
40 minutes d'enregistrement, tu n'as pas réussi à finir le cubrimique.
Tu comprends que je faisais juste gosser avec en plus, mais néanmoins, je ne serais pas capable de finir ça.
Mais te connaissant un peu maintenant, je pense que tu aimerais ça en avoir.
Je pense qu'il faudrait que j'essaye ça.
Hey, regarde, je te le donne. Je suis gentil de même, moi.
Mais,
ça sera mon cadeau. À partir de maintenant... Je suis une nouvelle personne grâce à toi.
Bon, ben écoute.
Gentil, ça va?
J'accepte, merci, puis bonne journée à toi.
Salut.